L'été vient à peine de commencer, puis déjà, il y a eu des accidents de plein air qui ont eu lieu. En fait, surtout en fin de semaine dernière, il y a eu deux incidents de kayak, entre autres, Jean-Simon, dont un jeune, qui c'est un jeune de 19 ans, je pense, qui a perdu la vie lors de cet accident-là.
Lui, c'est une noyade dans la rivière Malbaie. Il est sauté à l'eau et il s'est noyé. Malheureusement, on l'a repêché. Ça s'est passé dimanche, les deux incidents dans la région de Charlevoix. Donc, lui, c'est un jeune homme de 19 ans qui est mort par noyade. Et l'autre individu, c'est un homme de 58 ans qui s'appelle Mario Boutin, qui lui était en kayak sur le fleuve Saint-Laurent, près de la Malbaie, au large de Cap-Alègue, vers 13h45, il a chaviré et malheureusement, on n'a pas pu le sauver. Donc, deux accidents nautiques mortels en une journée dans la même région à quelques kilomètres de distance.
Oui, puis on est le 19 juin seulement. La saison de kayak va se poursuivre dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter des accidents comme ça? C'est quoi les mesures de sécurité qu'on est supposé prendre avant d'aller en kayak ou avant de faire n'importe quelle activité de plein air? Si vous aimez faire du hiking ou aller monter le Mont-Saint-Anne, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des ours dans le Mont-Saint-Anne. Il y en a, puis il y a des mesures qu'on devrait prendre pour se prémunir contre d'éventuelles attaques ou d'éventuelles visites d'ours comme ça. Alors, pour en parler, on va aller parler à Marcel Bouchard et les spécialistes de plein air et d'activité physique. Monsieur Bouchard, bon matin.
Bon matin. Comment ça va, les PA, les plein air?
Ça va très bien. Monsieur Bouchard, je vais commencer par le kayak. Lorsqu'on va, moi, j'en ai pas. J'en fais pas. C'est pas une activité que je pratique vraiment. Par contre, si demain matin, je commence le kayak et je vais en sortie, qu'est-ce que je suis supposée amener avec moi? Qu'est-ce que je suis supposée porter? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter certains accidents?
C'est sûr que là, il faut faire une distinction, hein, parce qu'il y a le kayak de rivière. Puis il y a le kayak de mer. C'est deux disciplines complètement différentes. C'est des embarcations qui sont complètement différentes. Et on va vous demander des attitudes, des comportements différents. Mais si on prend les accidents qu'il y a eu, là, si on prend celui qui est allé en kayak de mer au large de Cap-Alègue, je ne sais pas si vous le savez, là, mais l'eau, rien que la température de l'eau à Cap-Alègue, si tu n'as pas ce qu'on appelle un bon dry suit avec des sous-vêtements solides et bien équipés, en partant, si tu tombes à l'eau, tu en as pour 5 minutes. Dépasser ça, là, tu te rappelles plus de ton nom, tu as oublié ton adresse, puis tu tombes en hypothermie, puis après ça, ça va loin, ça peut entraîner la mort.
Okay.
Mais là, je ne vous ai pas parlé de communication, parce qu'encore là, tu es loin de ta mère là, au large de Cap-Alègue.
Oui,
si le vent se lève, avec les courants, avec les marées, la météo qui tombe, la circulation commerciale qui est là, parce que je vous parle de gros bateaux, là, le complexe G passe régulièrement au large dans ce coin-là. Là. Alors, tu sais, on peut pas s'improviser dans ces disciplines-là. Au même titre que celui qui s'est noyé dans la rivière en voulant se baigner, s'il n'a pas de connaissances, s'il est seul, s'il n'y a pas de ceinture ou quelque chose qui va l'aider à flotter au cas où il y aurait un problème, ben les courants d'une rivière, ça se lie comme le vent quand tu voles. C'est la même chose avec le sol, les turbulences et les accidents de terrain. Alors, il y a une foule de connaissances qu'il faut avoir. Ça prend du bagage. Comprenez-vous? La nature est exigeante. La nature demande à l'homme des connaissances, demande de tirer, de pousser, de nager, demande une condition physique intéressante. Donc, si on veut s'initier, on veut pratiquer ces activités-là, ben, une chose aussi inoffensive qu'un maringouin, allez-vous-en dans le secteur de la Jacques-Cartier ou en forêt, c'est ainsi, là, pour la dernière semaine de juin, début de juillet. Puis je vais vous dire, mettez-vous juste une belle paire de Bermudas, là. Puis je vous donne 4 heures maximum, vous sortez de là, en arrière des orignaux, à la course, en disant, mon Maurice, j'ai trop de mouches.
Ouais.
Ça va être l'enfer. Voyez-vous, c'est un minimum de connaissances.
Ouais.
Une chose simple. À ce temps, il y a des documents qui existent. Allez voir les petits documents de la garde côtière. Les petits documents de la garde côtière vont vous expliquer exactement ce que ça prend comme équipement, des communications, ce que ça prend comme petite pompe pour vider ton kayak s'il se remplit, ce que ça prend comme ceinture, un sac à cordes, par exemple, pour être capable de lancer au loin et récupérer. Chose aussi simple que faire de la moto. Tu sais, la moto, là, ça te prend un casque, c'est un bon casque. Ça te prend un pantalon, normalement, qui te protégerait. Mais dites-vous une chose. Et ça, je pense que c'est la morale de l'histoire. J'aime pas ça donner des leçons, là. Mais c'est pas une leçon, c'est une observation. Une pièce d'équipement remplace pas le jugement.
Non,
et le jugement est basé sur une connaissance apprise et acquise. Ça commence comme ça.
Mais M. Bouchard, je vous écoute, là, puis je veux dire, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de préparation à faire avant d'aller en kayak, mais pourtant, moi, ce matin, je peux me présenter à plein d'endroits qui louent des kayaks un peu partout dans la région de Québec, puis ils me demanderont pas c'est quoi mon historique avant de me louer le kayak, là.
Ouais, mais ils vont te demander où tu vas. Ouais. Ils vont te demander qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Isabelle. Ils vont te dire, tu sais, on ne te donnera pas un cours nécessairement. Tu peux prendre un cours si tu veux. Au même titre que tu peux t'acheter un voilier demain matin et partir au large sur le fleuve avec ça. Tu vas revenir ton linge chopé à mode ou bien tu ne reviendras pas.
Ouais, c'est ça.
Parce que il peut t'arriver des accidents, mais on ne te demandera pas forcément un cours. Tu sais, il faut arrêter de penser que ça prend un cours pour vivre sur la terre. C'est pas ça. Mais ça prend du jugement pour survivre. C'est là que ça se passe. Et il faut faire du raisonnement. On s'en va aux États-Unis, dans le Grand Canyon, tu te promènes sur le bord des falaises de 200 mètres de profond. Il n'y a pas de clôture là, puis dire « Faites attention de ne pas tomber. »
Non, c'est sûr.
Ici, on s'en va en haut du parc des chutes Montmorency. Ils sont capables de mettre des estrades, des clôtures de je sais pas comment de pied, puis dire au monde « Faites attention de ne pas tomber, c'est dangereux. » Puis tout. Ah, il faut pas venir fou, là. Faut raisonner.
Mais est-ce qu'en général, Marcel, tu penses pas que les gens sont plus assez peureux? Parce que quand t'es peureux, t'es prudent.
Oui, c'est ça. Mais je pense que les gens ne sont plus assez méfiants pour toutes sortes de raisons. Parce qu'on voit Mario Bros qui saute de 3 étages puis qui part à la course en s'en allant sur le net. On voit un paquet d'affaires. Ça dédramatise, mais en même temps, c'est irréaliste. Puis ça, les gens, souvent, les effets spéciaux qui se passent là, puis l'irréalisme, souvent, on a tendance à pas trop développer notre jugement. Et le fait de ne pas fréquenter la nature d'une façon régulière ou que par week-end à l'occasion fait que tu deviens un touriste puis tu t'en vas dans les sentiers, ça passe, ils sont perdus. Ils comprennent pas ça. Mais c'est pas marqué, j'étais au coin de Gravel et Saint-Jean dans le sentier. Là. Faut que tu saches où tu vas. Faut que tu sois capable de lire une carte. T'sais? Alors, ça s'apprend, ces choses-là. Mais il faut avoir du jugement. Dépassez pas vos capacités parce que la nature, elle le permet pas trop. Puis, d'un autre côté, faut pas venir fou non plus. Faut pas voir le danger avant le plaisir.
Mais j'ai lu, Marcel, aussi, que dans les objets incontournables à amener dans une sortie en kayak, il y a entre autres le sifflet. Que si jamais t'es en danger, t'as bien beau crier, il y a personne qui va t'entendre, ça te prend un sifflet. Est-ce qu'il faut toujours l'amener avec nous, ça?
Ben, le sifflet, normalement, il est attaché après ta petite veste.
OK.
Non, mais ça prend une petite veste.
Oui, c'est ça.
Ouais. J'en ai un même après ma veste de canot, puis j'en ai un là. C'est parce que si tu n'es pas capable de crier, parce que pour toutes sortes de raisons, tu es étouffé, tu restes à être capable de siffler d'un sifflet. Mais je t'annonce qu'un sifflet au large de Cap-Alègue, ça va prendre une moseuse de belle fille sur ton nez, là, parce que ça veut dire.
Mais c'est quand même mieux que juste la voix qui va être étouffée par le vent, là.
Oui. Même le sifflet, tu n'entends pas tout le temps. Ouais. Tu passes en bateau pas loin. Mmh. J'ai dû récupérer quelqu'un en planche à voile, moi, dans le coin de Grosse-Île. J'étais avec mon ami Pierre, puis à un moment donné, Pierre, Marcel, j'ai entendu un bruit. On faisait un tournage. À un moment donné, je m'aperçois qu'il y avait un gars qui était assis sur une planche à voile qui dérivait. Ça faisait comme 1h30 qu'il nous a dit une fois qu'on l'a embarqué parce que son guide mulet était cassé en dessous. Puis il attendait. Tu sais, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Le gars, il s'appelait Jacques Bouchard. Il dit, mon père s'appelle Marcel Bouchard. Fait que tu parles d'un adon.
Hey Marcel, justement, parlant de tout ça, c'est-tu comme bien des affaires, la sécurité en plein air, ça passe un peu par le fait d'inculquer ça jeune? Tu sais, quand t'as commencé jeune à apprivoiser la nature, le plein air, que ce soit nautique ou en forêt, ben, il y a plus de chances que tu prennes les bonnes décisions puis t'aies le jugement plus tard.
Tout à fait. Puis pas rien que ça aussi. T'sais, c'est pas tout le monde qui aime lire. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait apprendre sur le tas des expériences du vécu. Il y a du monde qui lise, il y a des gens qui lisent beaucoup. Alors, si on lit des bons documents, on part de là avec un bagage de connaissances, on n'a pas bien l'impression de réinventer la roue. Puis l'aventure, on la vit, mais elle est un petit peu plus contrôlée. Mais aujourd'hui, avec les parcs qu'on a partout au Québec, c'est hyper réglementé, c'est bien organisé. Alors, tu t'en vas là, puis il y a des guides, on va t'informer. Moi, j'ai enseigné le canot de rivière en eau vive pendant 35 ans. Je veux dire qu'on a vu du monde là, qui ont commencé dans un canot, ils savaient pas où ils étaient à gauche, pas à droite, puis quand ils ont terminé, il y avait un vocabulaire de mouvement. À mon sens, au Québec, là, il n'y a pas personne qui devrait pas savoir se servir d'un canot, c'est-à-dire savoir pagayer. Il n'y a pas personne qui ne devrait pas savoir nager, puis il n'y a pas personne qui ne devrait pas se servir d'une boussole. Ça fait partie de notre vocabulaire. Du patrimoine, ces choses-là.
C'est un bon point.
Et malheureusement, on néglige ça dans la formation des jeunes. Alors, c'est essentiel. Tu sors de la ville, t'es où? T'es dans la forêt ici.
Oui, c'est ça l'affaire.
À un moment donné, t'es dans l'air.
Et là, Marcel, on a parlé beaucoup de kayak, qui, je pense, est une activité peut-être un peu plus spécialisée, mais une activité que la plupart des gens qui nous écoutent pratiquent l'été, c'est peut-être la marche en forêt ou d'aller se promener dans le Mont-Saint-Anne. Mais là, quand on fait ces activités-là, il suffit pas juste de mettre une paire de shorts, puis un t-shirt, puis une bouteille d'eau, puis d'y aller. Là, faut quand même prendre d'autres précautions.
Oui, oui, mais pas rien que les shorts. Les shorts, même, c'est plus de mise. Avec la tique qui se promène un peu partout dans les forêts, là, je t'annonce que si tu te ramasses avec la maladie de Lyme, tu ne trouveras pas drôle. Là. Alors, les shorts, les pantalons longs maintenant en forêt, oublie ça. L'huile à mouche, tu sais, Québec, c'est le pays de l'huile. L'huile à chauffage l'hiver, puis l'huile à mouche l'été. Là. Puis je vais te dire, on parlait de l'Abitibi comme ça, mais c'est le même dans nos forêts. Là. Cependant, c'est pas toujours, il n'y a pas tout le temps autant, mais il y en a. Il y en a, c'est les pires périodes, c'est juin, juillet, début, mi-juillet, fin juin, là. Mais après ça, c'est vivable plus facile. Mais aussi le boussole. Prends quelque chose, t'orienter. C'est beau du GPS électronique, un cellulaire, tu l'échappes, puis il casse, c'est fini. Ta boussole, elle sait toujours fonctionner, elle. Cependant, faut que tu saches t'en servir. Et les ours. Bon, arrêtez, là. Les ours, normalement, ça se sauve. Ça t'attaque pas. Ouais. Mais des fois, dans la population humaine, il y en a qui ont. C'est pas les crayons les plus aiguisés dans la boîte. Hein? Mm-hmm. Alors, il y a des ours pareils. Il y a des ours qui sont pas brillants, puis des fois, qui ont tendance à foncer. Alors, moi, ce que je recommande pour un ours, poivre de Cayenne, oublie ça. Là. Sylvain Dumas Babard, puis t'envoies ça à l'ours, je t'annonce que tu viens de te boucher deux yeux, puis tu viens de donner une chance en maudit.
Mais tu verras pas l'ours qui t'attaque.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est ça. Tu vas avoir un petit peu moins peur, à un moment donné, tu te demanderas pas ce qui se passe. Mais pour éviter une situation comme ça, on appelle ça un bear banger.
Okay.
Ça ressemble à un petit stylo. Il y a une petite cartouche à blanc qui se visse autour de ça. Tu traînes ça dans tes poches. Puis un ours qui s'en vient, puis tu trouves qu'il est proche. Tu le mets ça dans les airs. Tu tires là-dessus. Ça fait un coup de fusil. Ben fort. On va dire, il revient d'abord, puis il s'envole.
Puis les cloches aussi. Puis il y a les cloches aussi, évidemment, qui recommandent les grelots là, pour indiquer.
S'il t'entend, dans le fond. S'il t'entend, il va se sauver. Ça, c'est sûr.
Ouais.
Normalement, les grelots, c'est pas déplaisant, mais ça vient t'en en maudit. T'as l'impression d'être en sleigh ride.
C'est ça le problème, effectivement. Moi, je n'ai fait une randonnée avec les grelots parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je n'aille, mais ça m'a tellement tapé ses nerfs tout le long.
Moi, tu ne me crois pas traîner des grelots. Je vais siffler.
Non, mais tu vas siffler des tunes de Noël?
Mais bon, ouais. Non, j'ai de la neige chez toi, mais quand même pas pour toi plein temps.
Marcel, est-ce qu'on devrait toujours s'amener aussi? Bien, évidemment, là, quand on part en randonnée, d'habitude, on a un laps de temps maximum où on veut l'être. On se dit que ça va prendre une heure peut-être. Autrement que l'eau, il faut amener de la nourriture aussi, chose à laquelle les gens pensent pas tellement.
C'est ça. Mais là, tu parles de randonnée. Il y a toutes sortes de randonnées. Courte durée, longue durée, puis d'une journée et plus. Là. Alors, tu traînes pas la même chose, puis tu veux pas partir avec un sac à dos de 20 litres quand tu pars juste pour une balade d'une heure et demie. Donc, ça te prend de l'eau. Ça, normalement, tu te traînes de l'eau, des noix, hein, quelque chose comme ça. Puis une coupe de petites bartendes, puis tu devrais t'en sortir avec ça. C'est sûr que si tu te perds pendant 4 jours, tu vas en manquer.
Ouais,
en principe, où tu vas, tu planifies. Tu sais, planifie un petit peu. Mais d'un autre côté, tu es dans la vallée de la Jonquière-Cartier, tu décides d'aller faire le sentier de Scotora. Si tu te perds là, ça prend du talent. Hein? Puis, en plus, tu te traînes de l'eau. Ça, faut pas t'en manquer. Ça, c'est certain. Mais à partir de là, après ça, quelques jujubes, t'as donné du sucre, tu manques un peu de gaz parce que ça monte les montagnes. Après ça, t'es correct, tu t'en sors. Ça dépend toujours du secteur que tu visites. Mmh. Et normalement, tu devrais faire une chose. Avertir une personne, au moins, qui est au courant, qui sait où est-ce que tu vas.
Ouais,
même si vous êtes deux, qui sait où est-ce que vous allez. Puis dans combien de temps vous pensez revenir? Puis après, en revenant, c'est comme un plan de vol. En revenant, tu te rappelles, tu dis, OK, on est à telle place, on est revenu, on est sorti de voie.
Parfait.
Ça, c'est très, très important. Parce que la Sûreté du Québec, là, ils travaillent fort, les gars qui font l'équipe de recherche. Mais quand tu dis qu'il est parti au lac Saint-Jean, puis il est situé entre le lac Édouard puis Robert-Val, tu vas dire, ouais, on va chercher longtemps.
Ouais, c'est pas tellement précis. Marcel Bouchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Plaisir, priez-vous à traite, puis tout le monde dehors.
Merci beaucoup. Marcel Bouchard est spécialiste de plein air et activité physique. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut que tu saches avant de partir. Moi, la première fois que je suis allée monter le Mont-Saint-Anne, je suis allée avec une amie qui y allait souvent. Moi, pas préparée pantoute. J'avais pas d'eau, pas de bartende, pas rien.
Même
j'arrive
pas
là-bas.
D'eau.
Elle était prête. Elle avait une grosse bouteille d'eau puis tout ça. Mais là, j'ai pris des notes. Puis là, je me suis acheté une ceinture de taille où tu peux mettre une bouteille d'eau. Et puis, je m'amène tout le temps une barre Cliff aussi maintenant. Mais je me souviens que la première fois, je veux dire, j'étais vraiment, vraiment pas préparée. Mais j'avais jamais fait ça. Moi, je me disais, je suis capable de passer une heure et demie sans boire de l'eau. Là, c'est pas plus grave que ça. Mais si j'avais été tout seul, ça se peut que je l'ai pas trouvé drôle. Mm-hmm. Là, t'sais. Fait qu'il faut quand même s'informer. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Et si vous pensez que votre randonnée va durer juste une heure, là, moi, je me suis fait prendre cet hiver. On est allé au Mont-Saint-Anne, justement, en raquette avec cette même amie-là. Puis on avait l'intention d'en faire pendant une heure et demie. Puis finalement, le sentier qu'on a pris, on pensait qu'on allait revenir à la base assez rapidement, mais il se rendait jusqu'au sommet. Ça a pris 3 heures à peu près, monter et descendre. Ça a été l'enfer, mais une chance que j'étais plus expérimentée, là. J'avais de l'eau en masse, puis j'avais une barre tendre. Mais je vais te dire, je l'ai vraiment pas trouvé drôle, là. Vraiment, vraiment pas. Ça finissait plus. Ça finissait plus, puis je savais pas à quel moment on allait finir par descendre en bas. Fait que, faut vraiment se préparer à toute éventualité.
Hey, mais ce qui m'a marqué de l'entrevue avec M. Bouchard, là, c'est quand il disait à un kayakiste qui décide d'aller faire, bon, un peu de kayak sur le fleuve, dans le coin de la Malbaie, tombe à l'eau, t'as 5 minutes. C'est vrai qu'on pense pas à ça. On pense au gilet, on pense au coupe-vent, mais peut-être pas d'avoir un wetsuit adapté à une petite sortie comme ça.
Non, en plein été, l'eau est à 5-6 degrés. Là.
Alors, connaître son environnement. Quand vous partez en randonnée ou en activité, essayez de connaître un petit peu l'environnement dans lequel vous allez être. Est-ce qu'il y a des bébites? Est-ce qu'il y a des maringouins en masse? La température de l'eau? C'est vrai que c'est pas un réflexe qu'on a vraiment de s'informer sur l'endroit où on s'en va. Nous autres, on se concentre sur l'activité qu'on s'en va faire. Alors, de très bons trucs de Marcel Bouchard pour la saison à venir. C'est déjà commencé. Ça a commencé tristement, malheureusement. Il y a 2 décès déjà en un seul week-end en kayak. Alors, soyez prudents et planifiez vos sorties comme il faut.